VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RDC, deux casques bleus béninois de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, sont portés disparus 4 jours après l'attaque de leur convoi par les miliciens Mai Mai de la province de Tanganyika, dans le sud-est du pays. Le convoi attaqué vendredi dernier était composé de 2 véhicules avec 13 soldats. Les 11 autres sont sains et saufs, a déclaré ce mardi à l'AFP Florence Marshall, une porte-parole de la MONUSCO, en soulignant que la force de l'ONU est entièrement mobilisée pour retrouver les deux disparus. Les Mai Mai sont des milices d'autodéfense composées sur une base ethnique. Au Burundi voisin, fin de la campagne pour le changement constitutionnel. Le CNDD-FDD, le parti présidentiel, l'a terminé au cercle hippique de Bujumbura. L'Uprona du premier vice-président de la République, Gaston Sidimouro, à Kamenge, un quartier du nord de la capitale, et le FNL d'Agathon Rwasa à Gitega, dans le centre du pays. Le vote référendaire est prévu jeudi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le parti présidentiel, à la tête duquel le secrétaire général, Évariste Ndayishimiye, a terminé sa campagne au cercle de Bujumbura, une foule nombreuse des militants dans leur tenue de l'aigle battait campagne pour le oui, de même que les sympathisants du parti de l'indépendance Uprona, qui s'était déplacé vers le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura, derrière le premier vice-président Gaston Sindimo. Ces deux formations politiques vantent les mérites du changement de la constitution qui avait été adopté en 2005 après des années de négociations. Agathon Rwasa, quant à lui, était au centre du Burundi, dans la province de Gitega, où ses sympathisants avaient répondu pour le non de la révision constitutionnelle. Pour le parti Front National de Libération, qui ne sera plus une coalition d'indépendants après l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle enterre définitivement les accords de paix et de réconciliation d'Arusha, signés en 2000. Rappelons que plus de 26 personnes ont été tuées par un groupe armé vendredi dernier, et 7 personnes blessées, selon le ministre de la Sécurité publique, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Cameroun, quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur foyer dans les régions anglophones du pays suite aux violences liées au mouvement séparatiste, a indiqué l'ONU ce mardi dans un communiqué de son bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. C'est la première fois qu'une estimation du nombre des déplacés est effectuée depuis le début de la crise fin 2016, et ce en raison d'un accès difficile aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, les deux zones anglophones du pays en proie à cette profonde crise sociopolitique. Les séparatistes sont accusés de multiples enlèvements de fonctionnaires et autres Camerounais francophones, tandis que l'armée est taxée d'exactions et de brûler les habitations. « Nous ne brûlons que les maisons où on découvre des armes », a souligné l'armée fin avril à l'AFP, tout en réfutant les accusations d'exactions formulées contre elle. Congo-Brazzaville, 17 des 20 activistes du mouvement citoyen de ras-le-bol retenus par les autorités ont recouvré la liberté lundi à Pointe-Noire après avoir passé une semaine dans les locaux de la police. Les autorités les avaient accusés de troubler l'ordre public alors que la société civile sur place parle de simples démarches citoyennes. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les 17 activistes ont été libérés en présence de leurs parents. Les tractations ont duré toute la journée de lundi avant que le groupe de jeunes ne quitte les locaux de la DDST vers 15h en heure locale. Ils ont été libérés à moitié habillés avec une coiffure bizarre, a constaté Georges Nguila, le responsable de l'OCDH à Pointe-Noire. Le 7 mai dernier, 20 jeunes membres du mouvement Le Ras-le-bol ont été arrêtés dans la ville pétrolière alors qu'ils tentaient de déposer une requête auprès du parquet pour dénoncer la détention des opposants dans les maisons d'arrêt. Selon Georges Nguila, qui a facilité ces libérations, les jeunes n'ont commis aucune infraction assimilée à trouble à l'ordre public. Mais 3 autres activistes, tous membres du bureau du ras-le-bol à Pointe-Noire, n'ont pas été libérés. Ils pourraient être présentés devant le procureur de la République. Il s'agit de Franck Badiata, Julfa Banga et de Van Kibamba. La semaine dernière, la police a également arrêté à Brazzaville le coordonnateur national de ce mouvement, Franck Njila Malembe, et 2 de ses compagnons. Ils sont toujours en détention à la maison d'arrêt. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, le procureur de la République a requis de lourdes peines dans le procès des djihadistes présumés. Jugés devant la chambre criminelle spéciale de Dakar, les accusés risquent des peines de prison allant de 5 ans à la perpétuité. L'imam Aliou Ndao et ses 31 co-accusés sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et acte de terrorisme par menace, complot et apologie du terrorisme. La plupart des prévenus sont en détention préventive depuis environ 2 ans. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Dans son réquisitoire, le procureur a commencé par dire que la lutte contre le terrorisme constitue l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Il s'est dit convaincu de la culpabilité des accusés. À ce titre, il a requis 30 ans de prison contre l'imam Daou pour les délits d'apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux, détention d'armes et de munitions. Le procureur a requis la prison à perpétuité contre Makhtar Diohane, accusé d'avoir reçu des financements venant d'Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram. Cette même peine a été requise contre une dizaine d'autres accusés parmi lesquels les jeunes qui étaient allés combattre auprès des djihadistes. Pour le procureur, techniquement et théoriquement, l'entreprise terroriste s'est avérée, aussi bien pour ceux qui ont été au Nigeria dans le fief de Boko Haram que pour ceux qui ont été au nord du Mali avec ACMI. 15 ans de travaux forcés ont aussi été requis contre Koumba Nyan, seule femme à risquer une peine de prison dans ce procès. En outre, le procureur a demandé la relaxe pure et simple pour 8 des prévenus. Les plaidoiries de la défense sont prévues à partir de ce jeudi 17 mai. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Au Bénin, croissante dans les rangs des journalistes de la presse privée qui se plaignent de ce qu'ils appellent leur situation précaire sur fond d'exploitation par certains patrons de presse. Coup de projecteur sur ce dossier avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La libéralisation de l'espace médiatique béninois a permis l'éclosion d'une multitude d'organes de presse. De deux radios à peine à la fin des années 80, on en compte aujourd'hui plus de 113, 15 chaînes de télévision et 63 journaux ayant une base légale, à côté de plusieurs autres dizaines, naviguant dans l'illégalité. La libre pluralité de l'expression qui donne aux médias le rôle de quatrième pouvoir cache bien des réalités d'une grande tristesse. Modeste Dossa est journaliste au sein d'une chaîne de télévision privée Golf TV Africa. Il parle d'une précarité qui finira par achever le journaliste de la presse privée.
Il faut avouer que le journaliste béninois dans la presse privée ne vit véritablement pas bien. Nous avons des patrons de presse qui pensent d'abord à leur poche avant de penser à ceux qui véritablement leur permettent d'avoir un nom. Dans la presse béninoise, rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils tiennent véritablement le coup. Il faut forcément pactiser avec le diable, c'est-à-dire se mettre à la disposition d'un politique, se mettre à la disposition d'une association. Et dans ce cas précis, vous ne faites plus le journalisme puisque des comportements vous sont dictés de l'autre côté.
En parler pourrait vous contraindre à un chômage immédiat. Bien de patrons de presse ont fait signer à leurs employés des documents qui les empêchent de se plaindre au risque d'en payer le prix fort. Fortuné Sousa est journaliste, président de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Il parle ici du non-respect de la convention collective qui fixe le salaire à au moins 120 000 francs CFA.
Le plancher, c'est 120 000 francs pour un journaliste qui vit à Cotonou ou dans les centres urbains, mais curieusement, malgré ces chiffres qui sont dérisoires, la majorité des patrons de presse ne payent pas. Il y a beaucoup de journalistes qui ne sont presque pas payés. Il y en a qui sont payés presque à 6 mois ou à 10 mois sur l'année. Donc ça fait que le journaliste béninois, notamment dans la presse de services privés, vit mal.
Le salaire le plus bas est de 15 000 francs CFA parce que le patron espère que sur le terrain des couvertures médiatiques, le journaliste pourrait se faire payer les frais de déplacement. Du coup, beaucoup se lancent dans une sorte de rançonnement et de chantage. Un directeur général est payé à moins de 200 000 francs CFA. Il s'arroge toutes les couvertures médiatiques du mois pour avoir le complément. Pour Benoît Adadja, la presse privée en elle-même est très malade.
Là, nous avons connu les pires moments de notre histoire. Sans essai, avec beaucoup de journaux qui n'ont pas de siège, qui n'ont de siège que dans leur sac, et qui écrivaient n'importe quoi, qui attaquaient directement la vie privée des gens, qui voulaient régler des comptes. Une presse totalement clochade, une presse agonisante.
Beaucoup se font renvoyer sans aucune autre forme de procès dans le silence et la complicité des associations fêtières qui, pour le moment, ne sont d'aucun secours pour le journaliste de Cotonou, Ginette Fleur Adandé, pour VOA Afrique.
Proche-Orient, pour terminer, Israéliens et Palestiniens se préparent à de nouveaux affrontements ce mardi au lendemain de la journée la plus meurtrière de leur conflit depuis 4 ans, avec la mort de près de 60 Palestiniens sous les balles israéliennes. Les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus et ceux de Cisjordanie occupés commémorent la Nakba, la catastrophe qu'a représenté à leurs yeux la création de l'État d'Israël en 1948 et l'exode de centaines de milliers d'entre eux.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.